Dans cette même pensée du disciple de Christ, Paul nous invite dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, et il nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Imiter, un mot fort dans la Bible, que l'on trouve 11 fois dans le Nouveau Testament. Le disciple est appelé à imiter le maître. Il y a une différence entre mimer ou parodier et imiter. Mimer, c'est gesticuler, parodier. Et c'est vrai que beaucoup gesticulent et s'agitent sans toutefois imiter le maître. Imiter, c'est reproduire l'attitude, le comportement, la façon de s'exprimer, la façon de penser. C'est prendre pour modèle. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 40, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Je souligne bien ces deux mots, « il sera comme son maître. » Pour imiter Christ, nous sommes appelés à nous imprégner de sa personne, de son caractère. Mais pour cela, il faut le connaître. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul nous invite et il nous dit « Ayez en vous les sentiments ». Le mot grec utilisé ici, c'est le mot « phroneite », c'est-à-dire « Ayez en vous la pensée, l'attitude, le comportement ». Ce mot-là, on le trouve 20 fois dans le Nouveau Testament. Connaître Christ pour mieux l'imiter. Nous avons tous en mémoire ces grands imitateurs ou parodieurs qu'étaient les vedettes de l'époque, Henri Tissot, Thierry Leluron, Coluche, etc., qui ont si bien imité nos personnages politiques. Ils s'imprégnaient de ce personnage et imitaient leur accent, leur mimique, pour être plus près du personnage. Il faut connaître Christ en tant que disciple. C'est le seul moyen de pouvoir l'imiter. Quelle belle invitation l'apôtre Paul nous donne là. Ayez en vous les sentiments, le caractère, le comportement qui était en Jésus-Christ. Paul l'avait réalisé et pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ m'imprègne. » dira-t-il dans les Galates, chapitre 2, verset 20. Il cherchait à imiter Christ et nous inviter à notre tour à l'imiter à lui. Pour réaliser cela dans notre vie, il faut commencer par véritablement, en tant que disciple, connaître Christ, son caractère, son attitude, ses sentiments. Le premier trait de caractère qui ressort justement dans ce verset que l'on trouve donc dans l'épître aux Philippiens, c'est son humilité et son renoncement. Il est dit, chapitre 2, toujours des Philippiens, au verset 6, que Christ, existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il a renoncé à lui-même pour prendre la forme d'un esclave, puisque le mot qui est cité ici, c'est le mot « doulos », qui signifie « esclave », qui est traduit dans nos Bibles par « serviteur ». Il s'est dépouillé de sa gloire. Il lave les pieds de ses disciples, dans une attitude d'humilité, dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Il est humble dès sa naissance, nous dit l'évangile de Luc, au chapitre 2. Il est humble à son baptême, acceptant de se faire baptiser par Jean-Baptiste et accomplissant ce qui est juste. Il est humble aussi au puits de Jacob pour s'asseoir et demander à boire à une femme. Il est humble de cœur, nous dit la parole de Dieu, et il est doux de cœur. Paul renonce à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il est imprégné de l'esprit d'humilité et de renoncement qui était en Christ. Jésus dit lui-même, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Le deuxième trait de caractère de Jésus, c'est son amour. Éphésiens, chapitre 3, verset 14, nous dit « Afin que nous puissions comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Un amour agapo, c'est-à-dire un amour sans limite, un amour inconditionnel pour le pécheur, manifesté par le don de sa vie à la croix du calvaire, Jean chapitre 21. Il a prouvé et exprimé son amour envers nous, alors que nous étions des pécheurs. Il nous a aimés, lui le premier. Dieu a prouvé son amour envers nous, nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 8. Il a manifesté l'amour, le vrai amour, l'amour agapo, cet amour sans limite, inconditionnel. Jésus nous invite à aimer comme, c'est-à-dire de la même manière que lui nous a aimés, dans Jean au chapitre 13, verset 34, et à demeurer dans son amour, dit-il dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Il le rend possible, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Avoir les sentiments d'amour de Christ, c'est aimer nos ennemis. Bénissez ceux qui nous maudissent. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, dit Matthieu au chapitre 5, verset 44. C'est aussi, en quelque sorte, manifester sa compassion. Le mot compassion est cité 7 fois dans l'Évangile. Jésus ému de compassion. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, il est ému de compassion devant la foule affamée. Dans Matthieu, au chapitre 9, on le retrouve devant cette foule abattue, sans berger. Jésus sera aussi ému de compassion. Devant le tombeau de Lazare, il nous est dit qu'il est ému de compassion. Dans toutes les circonstances où on rencontre Jésus, face aux malades, comme dans le chapitre 14 de Matthieu, Christ est ému de compassion. Ce n'est pas de la pitié, comme certains pourraient avoir, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est cette compassion, cet amour qui était en Christ, celle du bon samaritain, qui nous invite d'ailleurs, au travers de Jésus, à faire de même. Un autre trait de caractère de Jésus que nous devons imiter, mais c'est sa patience. Il nous est dit que injurié, Christ ne rendait point l'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Il subissait sans rien dire, nous dit Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 23. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul au chapitre 3, verset 5, nous parle de la patience de Christ. Soyez patients, dit-il aux Romains. Soyez patients dans l'affliction. Considérez, dit l'épître aux Hébreux, celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. La patience est un fruit de l'esprit, nous rappelle l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Rendez-vous recommandable par beaucoup de patience, dit-il aux Corinthiens. Au jeune Timothée, dans sa deuxième épître, l'apôtre Paul, au chapitre 2, verset 24, invite ce jeune serviteur de Dieu à être doué de patience. Dieu nous montre l'exemple. Il use de patience afin que tous soient sauvés. Un autre trait de caractère de Jésus, c'est son obéissance. Hébreux, au chapitre 5, verset 8, nous apprend que Christ a appris l'obéissance. Comment on peut imaginer que Christ puisse apprendre l'obéissance, lui dont l'obéissance était parfaite au Père? Mais il a été confronté à Gethsémané à un choix. Et il a répondu à ce choix qui lui était proposé. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, nous dit la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 34, que sa nourriture, dira-t-il à ses disciples, ce n'est pas cette nourriture terrestre, mais ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu chapitre 26 nous rappelle que Jésus à Gethsémané va dire cette parole, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans Hébreux chapitre 10, verset 9, « Voici je viens, dit-il, pour faire ta volonté. » Il nous est démontré au travers de ces versets de la parole de Dieu toute la loyauté de Christ parfaite à l'égard de son Père. Il paye le prix de son obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, se rendant obéissant, nous dit Philippiens au chapitre 2 et au verset 8. Obéir, quel que soit le prix à payer, c'est là le caractère de Christ et qui doit être aussi le caractère du disciple. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que toute la religiosité. L'obéissance nous rappelle justement le premier livre de Samuel au chapitre 15, verset 22, qui est le caractère de celui qui va être agréable au Seigneur. Il y a bien sûr deux sortes d'obéissance. Il y a l'obéissance contrainte, on obéit par crainte, parce qu'on se sent obligé, ou l'obéissance joyeuse. Le disciple doit être animé non pas d'une obéissance contrainte, mais d'une obéissance joyeuse pour son Seigneur. La joie de lui obéir. Un autre trait de caractère que l'on trouve en Christ, c'est son pardon. Dans Jean au chapitre 8, verset 3, il est là et tous condamnent cette femme pécheresse, mais Christ, lui accorde son pardon. Dans Luc au chapitre 23, verset 34, au moment où Christ est là, pendu sur le bois de la croix, il aura cette parole sublime à l'égard de ceux qui l'ont crucifié et de ceux qui sont autour de lui, qui se moquent de lui. « Père, dira-t-il, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, cette attitude extraordinaire de Jésus à l'égard de Pierre dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean au verset 5, où, alors que Pierre va être confronté à son passé, puisqu'il vient de renier son maître, Jésus ne va lui faire aucun reproche, mais va manifester toute sa compassion, son amour et son pardon à l'égard de son disciple. Paul nous exhorte, et il dira « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Colossiens chapitre 3, verset 13. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens chapitre 4, verset 3, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. C'est donc là ce trait de caractère qui était en Christ, le pardon par excellence, doit être aussi dans le caractère et l'attitude du disciple. On pourrait parler aussi de la sainteté de Christ. Hébreux d'ailleurs nous invite au chapitre 12, verset 14, « Soyez saints, car je suis saint. » C'est impératif. Il ne dit pas « si vous le voulez bien » ou « si ça vous fait plaisir ». Non, « soyez saints », c'est une attitude, c'est impératif, car je suis saint. 1 Pierre, au chapitre 1, verset 16, nous le rappelle de la même manière. Jean, au chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole, dit-il, que la parole de Dieu agisse dans nos cœurs de disciples, et qu'elle agissent puissamment et profondément en nous sanctifiant au travers d'elle. Hébreux, chapitre 12 encore, nous rappelle « Recherchez la sanctification. » Recherchez la sanctification. La sanctification n'est pas une option dans la vie du disciple, mais c'est une nécessité. On pourrait parler aussi de la fidélité de Jésus à l'égard du Père. Il a été fidèle jusqu'au bout, en accomplissant toute chose. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Et dans Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, et dans plusieurs des églises qui sont représentées au travers de ce livre de l'Apocalypse, il nous exhorte à la fidélité. Sois fidèle, si tu es fidèle. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il nous est exhorté, au travers de l'apôtre Paul, que chacun soit trouvé fidèle. C'est là aussi une marque du caractère du disciple. Dans Luc chapitre 19, verset 17, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Dans Luc au chapitre 16, verset 10, il est rappelé ceci, « Fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. » C'est là le devoir du disciple, être fidèle. On pourrait parler aussi de ce trait de caractère de Jésus qu'est la joie. Jésus, dans Luc au chapitre 10, verset 21, Jésus tressaille de joie. Et il dira lui-même dans Jean au chapitre 14, « Je vous laisse ma joie, je vous laisse ma paix. » Jean chapitre 15, « Ma joie est en vous et votre joie soit parfaite. » Romains au chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, dira-t-il. » Dans Néhémie au chapitre 8, verset 10, il nous est donné ce conseil extraordinaire de la part du prophète, « La joie du Seigneur sera votre force. » Un disciple, c'est quelqu'un qui sait trouver sa joie en Christ. On pourrait parler d'un trait de caractère un peu particulier, sa sainte colère. Dans Jean au chapitre 2, verset 13 à 25, Jésus nous est représenté là, animé d'une sainte colère, face au désordre, au trafic, aux marchands de toutes sortes qui sont dans le temple, dans la maison de Dieu. Et il va faire un fouet avec des cordes, il va renverser les tables des changeurs, et il va s'écrier, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Oh, quelle image, quel contraste avec la douceur de l'agneau qui nous est décrit dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Jésus n'a pas cette attitude pour se défendre lui-même, mais pour défendre les intérêts de son père et la maison de Dieu. On retrouve encore Jésus en colère dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 15, la colère de l'agneau, l'agneau qui jugera et qui condamnera. Jésus en colère pour la maison de Dieu. On va retrouver ce même trait de caractère chez l'apôtre Paul, qui sera animé aussi, lui, souvent, d'une sainte colère contre les hérésies, contre les voleurs d'âmes, ceux qui font l'œuvre de l'adversaire dans l'Église, et il sera là, bien souvent virulent, pour la défense de la vérité. En conclusion, j'aimerais dire, c'est ce vers quoi Christ nous appelle à tendre. Lui ressembler. Imiter Paul qui s'efforçait d'imiter Christ. Aimer comme Christ a aimé. Renoncer comme Christ a renoncé, ou comme Paul lui-même a renoncé. Servir comme Christ a servi. Être semblable à l'image de son Fils. Lui ressembler. J'aimerais avec vous rappeler les paroles de ce cantique que vous connaissez certainement, que l'on trouve dans le recueil des ailes de la foi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Je pense que nous n'avons pas placé la barre trop haut. Mais si l'apôtre Paul lui-même nous invite à ressembler à Christ comme lui-même ressemblait à Christ, c'est que par l'action puissante du Saint-Esprit, par sa parole, par le désir de nos cœurs, nous avons la possibilité, la capacité de lui ressembler et de lui être agréable et être rendu par l'Esprit semblable à l'image de son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.